nuit de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On se promène dans une ville, on lève le nez, on observe les façades, et l'on se demande si, à la place de cette supérette ou de ce magasin de vêtements, ou de ce parking, il n'y avait pas, des années et des années plus tôt, une salle de spectacle, une salle de cinéma par exemple. Oui, sans doute. Mais tous les cinémas ne meurent pas, heureusement, et beaucoup ont connu de nombreux avatars. Ainsi, l'aventure extraordinaire d'un cinéma, le Nox, le Berry Zèbre. L'histoire de ce cinéma est une véritable enquête qui fut menée par Christine Delorme et réalisée par Anna Smouk le 17 juin 2003 sur France Culture dans « Surpris par la nuit ».
Surpris par la nuit.
Belle fond, belle feuille. Bien sûr, belle ville. Belle ville. Ça avance. Voilà, belle ville. Donc là, on cherche 61, 62. Et le 63, on a Nox.
Société Nox Cinéma.
Société Cinéma, et c'est tout. Donc on est sûr qu'en 1951, on a un cinéma.
Et au 64, juste en face, il y a Belleville, chanson attractions diverses.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
L'aventure extraordinaire d'un cinéma, le Nox, le Berry, le Berry Zèbre. Une émission proposée par Christine Delorme.
Qu'est-ce qu'il fait le zèbre ?
Il a une patte.
Il a une seule patte ?
Oui. Il a mal à la queue.
Mais le zèbre, là, c'est drôle d'aventure. Hein. Je ne sais pas si on va réussir à tenir le coup. Hein. Là, j'ai rendez-vous au ministère de la Culture, cette semaine d'ailleurs. Parce que les petits lieux comme ça, c'est intenable, quoi.
Comme le zèbre, maintenant.
Oui, comme le zèbre. Mais non, vous avez bien vu que c'est doux, le zèbre. Hein. Non, celui-là, le zèbre immobilier, le zèbre en dur, là, en béton, puisqu'il est en béton. Hein. À l'époque, en 1940, ça a été construit en béton. Hein.
La devanture, la
ah,
façade.
Non, l'ossature. Toute l'ossature, oui. Ouais, la façade, oui, aussi. Mais
toute l'ossature est en béton.
Pratiquement, oui. Le balcon, ça a été... c'était l'époque où on construisait béton avec du fer à béton dedans. Le balcon, ça a été pour le démolir. Ça a coûté les yeux de la tête, ça a eu des surprises. Ils ont passé un temps...
Ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est sûr. Hein. J'ai même vu les plans de construction de M. Barbier, l'architecte. Mais Barbier, il est parti dans la nature, il est mort depuis longtemps.
Donc c'est M. Barbier, l'architecte.
Oui, c'est M. Barbier, l'architecte.
Et est-ce que c'est
M. Il habitait à Meillet-Montant, d'ailleurs, même. Mais on a eu les plans, et moi j'avais les plans, mais bon, avec comme ils ont tout saccagé, bon, après, bon, comme je vous ai expliqué, ils ont tout saccagé. Donc, il y avait même les plans dans les bureaux du Berry, à l'époque, il y avait les plans et tout du cinéma, ça a été construit sur les plans de monsieur Radomski avec monsieur Barbier, enfin, c'était un accord.
Et à votre avis, est-ce que c'est monsieur Barbier qui a construit tous les autres cinémas qui vont de Nation jusqu'à...
Oh non,
non,
non, non. Je crois que c'était pas ça. Je crois pas que c'était sa fonction première à Monsieur Barbier de construire le cinéma. Apparemment, ça devait être un accident parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, il avait fait le balcon trop haut. Et les gens du balcon étaient obligés de plonger pour voir. Il avait fait son balcon trop haut. Alors apparemment, il n'était pas vraiment un architecte de cinéma. Hein. Et à mon avis, je crois qu'il a construit celui-là.
Il était une fois dans le quartier de Belleville à Paris, un cinéma de quartier qui s'appelait le Nox. C'était avant la guerre. Le Nox devint le Berry, et cela pendant longtemps. Mais un jour, le Berry, comme tous les petits cinémas de quartier, fut menacé. De cinéma, il devint ciné-théâtre, ciné-concert. Un zèbre se mit à caracoler sur sa façade bleue. À vendre. Pouvait-on lire sur le bleu de la vie ? Le zèbre, indomptable, tourné vers l'est, mit un jour le cap à l'ouest. Tranquillisé, il fut racheté, transformé en cirque. Sur le fronton d'une façade blanchie dans des néons bleus, il s'appelle désormais le Berry Zèbre.
Était dégueulasse, mais de là à enlever la poussière de l'air, quand même.
Christiane Leproux.
Oh ben dis donc. Vous reconnaissez?
Oui, on va chez mon bureau, là. J'en ai pas fait des gens dans ce truc-là. Mais pas l'escalier, par exemple. Ça, c'est nouveau. Monter les cabines. Ah ben, ils ont tout flambolé. Ben oui, mais il n'y avait pas cette porte autrefois. C'était fermé, c'était clos, pourquoi ils ont fait un trou là? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils ont fabriqué, mais enfin, tu aurais dit ça, c'est mon bureau, et là, je descendais un escalier, qu'allait en bas, c'était la caisse en dessous, et puis là, je montais l'escalier, qu'allait la cabine. Voilà. Bon, c'était là qu'ils auraient fait les loges. Ça me paraissait plus logique, parce que les loges ici, ça paraît ridicule.
Je veux dire, parce qu'elles sont toutes petites, c'est ça?
Oui, puis j'ai même pas ça, mais c'est pas assez. C'était pour les artistes venir, c'est plus facile d'avoir les loges complètement au fond de la salle à gauche. Ils sortent du fond pour venir jouer sur la scène, alors que d'ici, il faut qu'ils traversent. Ouais. Pas évident, hein?
Parce que vous aviez imaginé, vous, de faire un théâtre ici?
C'était un théâtre.
Ah, moi je croyais que c'était une salle de cinéma.
C'était une salle de cinéma, mais. Jusqu'en 1984, et à partir de 1984, ça faisait théâtre et cinéma.
Ah, bah attendez, on va s'asseoir.
Voilà.
Oui, parce que si vous voulez,
d'abord, je peux vous présenter Suzanne aux beaux yeux.
Non, c'est moi, les yeux, aux yeux bleus.
Aux yeux bleus.
Aux yeux bleus. Suzanne aux yeux bleus qui m'appelle, monsieur. Comment il s'appelle, monsieur Pénac. Suzanne aux yeux bleus, voilà, comme il m'appelait. Bon, il fait chaud, j'attire ça quand même. Bon, voilà. Oui, si vous voulez, moi, j'avais du cinéma. Bon, en 51, quand on a acheté la salle, on a fait du cinéma. Et puis le quartier a beaucoup évolué. Et on était 11 salles de cinéma dans le quartier, quand je suis venu en 51. 11 cinémas, ce qui s'appelle être un nombre de cinémas important. Et puis petit à petit, les cinémas, les supermarchés offrant de l'argent, de tellement de fortes sommes d'argent, que le Cocorico, il est devenu, je sais plus comment il s'appelait le truc... J'ai une espèce de tati, quoi. Le Folie Belleville est devenu aide. Le théâtre de Belleville est devenu Grand Prix. L'autre est devenu champion. Enfin, tous les cinémas sont vendus à des supermarchés.
Alors, c'est pour ça que, en fait, Daniel Pénac, quand il parle Monsieur Malocène, c'est pour lui le dernier cinéma vivant de Belleville. Mais il a un peu raison, parce qu'il n'y a pas d'autres cinémas depuis...
Maintenant, il n'y en a plus d'autres. Maintenant, il n'y a plus d'autres cinémas, si vous voulez. En fait, finalement, il est resté le Bellevue en face, qui est une synagogue maintenant, est resté cinéma jusqu'en 90, par là, à peu près. Et c'était un cinéma porno. Alors, bon, à l'époque, nous, on avait en 80, entre 75 et 80, tous les cinémas étaient fermés. Bon, la clientèle, elle n'avait plus un grand choix de cinéma, elle avait donc le Berry et le Bellevue. Et faut pas croire que les gens, justement, quand il n'y a pas de choix, ben, ils s'en voient ailleurs, hein, c'est évident. Alors, ça fait que finalement, nous, on n'avait plus beaucoup de clients. Alors, on a essayé de tenir le coup, mais comme on n'arrivait pas, c'est là que j'en ai créé une salle de. On a retiré. Les 10 premiers rangs du bas, et on a mis une scène. J'ai fait une scène et j'ai créé un théâtre. On faisait des concerts, on faisait passer des jeunes artistes, des nouveaux artistes qui maintenant sont célèbres d'ailleurs, mais enfin bon, à l'époque ils ne l'étaient pas. Et si vous voulez, on a créé on continuait de faire du cinéma, c'est-à-dire la journée. On faisait du cinéma pour les enfants du quartier, pour les écoles. Et puis le soir, on faisait du théâtre. Et le samedi, après-midi et le dimanche, toute la journée, on faisait du cinéma parce que le dimanche, il n'y avait pas de théâtre. Donc on faisait du cinéma le dimanche et le lundi. Le dimanche et le lundi, c'était fermé au niveau théâtre. Donc on refaisait du cinéma avec des films d'arrêt-essai, des films musicaux. Vraiment une clientèle très spécifique. Et ça marchait très bien comme ça, finalement. Mmh.
Tout ça, c'est pour vous, Christine Delorme.
Voilà.
Ça, ça a été commandé à ce moment-là. D'accord.
Donc,
Et vous êtes combien, là? Vous êtes trois?
On est trois.
Vous avez trois cartes?
On a une carte.
Vous avez une seule carte? Bon. Et vous vouliez consulter les trois documents?
Et celui-là aussi, le DMP4?
Ah, oui, d'accord. Mais le seul problème, c'est que vous allez devoir les consulter un par un, bien sûr.
D'accord.
Donc, vous prenez un carton, vous le ramenez après, on vous donne le suivant.
Elle devait voir si elle trouvait le registre du commerce.
Elle n'a rien trouvé. Elle n'a rien trouvé, ni dans les théâtres, ni dans les cinémas, ni à la société Nox, ni à Berry, ni à Zèbre. Elle a cherché dans tous les lots, elle n'a rien trouvé du tout. Elle m'a appelé ce matin pour me le dire.
Okay. Bon, bah donc on va faire avec ce qu'on a.
Peut-être que vous trouvez un autre nom de société dans lequel elle n'a pas trouvé, parce que bon, si la société a été inscrite sous une autre orthographe, il peut y avoir un changement d'orthographe, il peut y avoir un autre nom qu'on ne connaît pas forcément.
Non. Parce que j'ai retrouvé tous les noms. Il y avait le Nox, Nox Cinéma, Berry, Berry Zèbre.
Elle a cherché à ces trois noms-là et elle a cherché dans le fichier des théâtres, comme si c'était un théâtre ou un cinéma. Elle n'a rien trouvé à ces trois noms.
Ça vous étonne ou pas?
Non, pas forcément. Non, non,
vous n'avez pas, tous les registres du commerce?
Non, c'est pas ça. C'est que la recherche... On peut avoir un autre nom qui vous a échappé éventuellement. Un nom commercial qui vous a échappé.
Oui, oui. Parce que toi, la première fois que tu le retrouves, c'est 51.
C'est 51, le Nox.
Et elle a cherché, il me semble, 1947, elle m'a dit ce matin. Jusqu'en 1947, elle n'a pas trouvé. Qu'elle peint du cadastre, donc D1,
oui.
P4. Hein.
Voilà.
D'accord, ok.
Et puis on peut se mettre sur une
table. Oui, où vous voulez. Oui, où vous voulez, il n'y a aucun problème. Tu l'as enregistré celle-là? Ça y est, c'est scanné? D'accord,
donc
prends votre carte.
Voilà.
Et quand vous avez fini avec celui-là, vous venez chercher le. Voilà.
La salle a été ouverte en 1947.
Juste après la guerre.
Voilà.
Et alors, qu'il y avait avant?
Il n'y avait rien.
Donc il y avait un trou?
Il y avait un trou. Il y avait une espèce de bâtiment, des hangars.
Des pourris. Des entrepôts?
Oui, une espèce de hangars pourris. Enfin bon, il n'y avait rien, quoi. Puis là, alors ils ont ouvert la salle en 1947, après la guerre, le temps de la construire, en 1947. Elle aurait dû être ouverte avant. Ils avaient commencé les travaux en 38-39. Il y a eu la guerre et tous les problèmes, donc ça tout a été arrêté. Et ils ont repris les travaux en 45, donc ça a ouvert en 47 ou 48. Bon, à ce moment-là, c'était, ils jouaient le Père Tranquille avec Noël, des maillots aviateurs, des choses comme ça. Et comme Monsieur Berck était d'origine israélite, ils ont joué des films russes. Et ça marchait très bien parce que c'était la grande époque de la bataille de Stalingrad, le cuirassé Potemkin, enfin, tout ce, ça, c'était, vous savez, c'est après la guerre, tout le monde, bon, il y a eu un moment, c'était, le film russe était très apprécié, mais il n'y en avait pas assez d'abord pour fournir, et puis, la clientèle, il y avait, la clientèle du quartier, ben, petit à petit, elle les avait vus, les films, alors on pouvait pas toujours repasser les mêmes. Au bout d'un moment, quand même, faut trouver d'autres films, mais il n'y en avait plus. Et puis, c'est arrivé la vogue des cow-boys, alors on s'est mis à faire du cow-boy. Et à ce moment-là, le temps arrivant, on est arrivé en 57-58, où il y a eu une demande énorme de travailleurs immigrés, donc le quartier s'est trouvé envahi. Il y avait plein d'hôtels dans le quartier, des hôtels avec 80 chambres, où ils couchaient à 3 par chambre, 4 par chambre, c'était un quartier dortoir. Alors, il y avait plein d'immigrés, qui venaient tous d'Afrique du Nord, évidemment. Oui, les émigrés nous disaient, vous passez des films égyptiens. Bon, mais nous n'y connaissions rien, un film égyptien. Enfin, il y avait un cinéma qui s'appelle Fidelio à Strasbourg-Saint-Denis, qui en avait des films égyptiens. Alors, on est allé en voir un ou deux. Et puis, en les regardant, bon, on est allé trouver la maison de film. On a commencé par en passer un. Et puis, bon, ben, on a deux, trois. Bon, on a compris ce qu'ils aimaient, où il y avait de la chanson puis de la danse. Donc, on s'est mis à passer des films égyptiens, musique et danse avec Farid Al-Atrache, Abdelhamid Hafez, Abdelaziz Mahmoud, Saba, Sadia, on a appris à passer des films égyptiens et on choisissait bien les films qu'ils aimaient, quoi. On savait que ça marchait très bien avec eux.
Et vous alterniez les films avec Farid Al-Atrache et les films de cow-boy ou...
Non, c'est
fini, vous avez arrêté.
On a commencé au début, on jouait deux semaines par deux semaines. Deux semaines cow-boy, enfin un film français, dirons-nous, deux semaines film arabe. Et puis bon, on s'est aperçu que c'était un petit peu... Ça, les gens ne s'y retrouvaient pas trop. Il y en a qui venaient pensant que c'était le film cow-boy, que c'était le film arabe. Bon. Alors finalement, c'est bon, on va faire deux films au même programme. Comme ça, comme c'était plein, c'était tout le temps plein, on s'est dit on fait deux films au même programme, les gens y rentrent, ceux qui veulent voir le film arabe, ils restent. Si ça leur plaît, ils sortent pas, ils voient le suivant. Mais en général, vous savez, c'était des familles qui venaient, bon, ben, ils repartaient. Et puis les Français qui n'étaient pas film cow-boy, il y en a qui restaient, mais au début pas beaucoup. Mais après, il y en a quand même qui restaient plus longtemps parce qu'ils s'intéressaient un peu. Alors, ils venaient. C'est comme ça qu'on a eu des clients comme Frédéric Mitterrand, comme Claude Lelouch, qui venaient voir des films égyptiens parce que ça leur rappelait leur pays, comme Enrico Macias d'ailleurs. Ils venaient ici aussi parce que ça leur rappelait leur pays.
Aujourd'hui, vous avez proposé des grillades et des poissons. Cela se passe au Zèbre, le dernier cinéma de Belleville. La table est dressée sur la scène et nous sommes 18 autour du couscous de Yasmina, ma propre tribu. Clara, Thérèse, Luna, Jérémy, le petit, Verdun, c'est un ange, Julius mon chien et Julie ma Julie. À quoi il faut ajouter Six sous la neige, bien sûr notre vieille copine Suzanne, la tenancière du Zèbre, et l'Asmala Ben Tayeb, au grand complet, qui, si les choses avaient suivi leur cours légal, dormirait ce soir dans un appartement vide de tout meuble. 18 convives mouillés jusqu'au cou, dans une affaire gravissime et qui s'envoie probablement le dernier couscous de la liberté dans le dernier cinoche vivant de Belleville.
La guirlande était drôle parce qu'on les voyait arriver à 8h du soir et à 11h, fini, pas fini, ils en allaient. Alors bon, au bout d'un moment, on s'est posé la question, on en a interviewé quelques-uns, enfin, on parlait un peu avec les gens, on dit « Pourquoi vous attendez pas la fin du film, il vous plaît pas ?» Elle dit « Non, c'est parce que le copain est parti au boulot et je peux aller me coucher. » Il venait là en attendant d'avoir la place dans leur lit, parce qu'ils faisaient 3-8, hein, qui travaillaient 8h, l'autre 8h, l'autre 8h, et chacun partait pour se coucher, l'autre il pouvait donc partir travailler, l'autre partait pour se coucher. Alors nous, on regardait les gens. Alors il y a des gens qui venaient à 2h l'après-midi, puis repartaient à 5h. Ça faisait un peu, ça faisait un petit peu comme un café, si vous voulez, avec une place de cinéma, au lieu d'être au café. C'était des marchands de sommeil, les propriétaires des hôtels. Et tout ça a été démoli et remplacé pour tous les immeubles que vous voyez nouveaux, là, qui vont de la rue Bisson à Couronne, c'est tous des nouveaux immeubles. C'était que des hôtels. Et toute cette clientèle-là, quand ils ont abattu les hôtels, toute cette clientèle, elle a été relogée sur la périphérie, c'est-à-dire Saint-Ouen, Bobigny, Bagnolet, enfin je ne sais pas trop où. Et à ce moment-là, comme ils ont eu des appartements, enfin des studios ou des petits deux pièces, ils ont acheté des télévisions, des magnétoscopes, et ils n'ont plus besoin de venir voir les films au Berry. Puis il y avait les clients du mercredi qui prenaient toujours la même rangée, les clients du jeudi qui s'asseyaient toujours à la même place. On les voyait arriver, c'était le mercredi soir, le nouveau film, c'était le rang du fond. Réservé à une famille qui venait là, ils venaient avec la famille du dessus, alors ils étaient fois 10-12 hein, ensemble. C'était le cinéma de quartier, c'était vraiment un lieu où on se rencontre.
C'est pas moi qui a tué Coluche, hein. C'est pas moi. Hein.
Titus et Silistri auraient volontiers compati, mais la stupeur l'emporta. Le pendu était tatoué de la base du cou à la plante des pieds. Un village rond autour de la taille où Joseph Silistri reconnut feu la place des fêtes, le royaume de son enfance. Partant de la place des Fêtes, un réseau serré de rues anciennes parcourait le torse du pendu, son dos, ses bras, ses jambes. Les rues traçaient leurs itinéraires entre une accumulation de maisons disparues. Tandis que Gervaise répétait doucement « Six sous, six sous !» Silistri ne pouvait s'empêcher d'égrener le nom des rues que les tatouages du pendu ressuscitaient. Rue Bisson, rue Villain, rue Pia, rue de la Mare, rue Ramponneau, rue du Pressoir et rue des Maronites, rue de Tourtille et rue de Palicao. L'escalier du passage Julien Lacroix, qui grimpait le long de la colonne vertébrale, débordait de lilas à la base du cou. En ce haut croisement de la rue Pia, de la rue du Transvaal et de la rue des Envierges, à deux pas du bistrot de Nadine, où Titus et Silistri auraient dû se trouver attablés ce même soir, avec Hélène et Tanita.
Donc là, ce qui est intéressant, enfin pour nous c'est intéressant, c'est que le propriétaire, donc en 1871, s'appelle Le Chérouillet.
Amina, et que c'est
l'acte de vente qui nous a été remise par le propriétaire actuel du Berry Zèbre.
Donc Monsieur Scheller.
Enfin, l'acte de vente fait déjà état du nom Le Chérouillet en 1930, hein, ce qui suppose que la famille Le Chérouillet est propriétaire des lieux, donc du 59 au 63 boulevard de Belleville, depuis une date antérieure à 1869, puisque le partage d'une propriété qui devait être plus importante a eu lieu à cette date. Alors, bon, si on voulait pousser un petit peu les choses, ce serait effectivement de se rendre au minutier central. Bon là ensuite dans la si on continue dans la description des lieux, le bâtiment sur boulevard, donc le bâtiment R+6 avec par étage, donc on voit au rez-de-chaussée on a une boutique, enfin deux boutiques. Je voulais juste voir quelle était la composition des étages pour savoir quel était le standing de l'immeuble. En fait on a une pièce à feu, salle à manger, pièce à feu, ça veut dire qu'en fait, là, on a un locataire qui est locataire d'une seule pièce avec une cheminée. Ici, on a une salle à manger, une pièce à feu, une cuisine. Bon, vous voyez bien, donc il n'y a pas de sanitaire, mais on a quand même, par niveau, on a quand même trois appartements qui sont petits, hein, puisque ce sont des petits deux pièces avec cuisine, mais relativement élaborés pour le contexte, hein, puisqu'on est juste après l'annexion et qu'on est quand même dans la proximité des communes périphériques.
On est juste après l'annexion, c'est important ça.
Oui, puisque là on est en 71, que l'annexion a lieu en 1860.
Et que le boulevard, est-ce que le boulevard c'est lié à la... C'est une création d'Haussmann, le boulevard de Belleville?
Non, le boulevard de Belleville, c'est la reconversion de l'ancienne enceinte fiscale dite des fermiers généraux, puisqu'à l'époque, le boulevard formait, si vous voulez, la séparation entre ce qui était Paris intramuros et les communes périphériques. Bon, on a bien évidemment à chaque fois le nom des locataires. Alors, on va passer au hangar. On voit quand même, enfin, au niveau, il y avait quand même des activités, puisqu'il y a un portefeuilliste.
C'est quoi, un portefeuille?
C'est les gens qui faisaient des portefeuilles. Voilà, tout bêtement. On a un ferblantier en chambre, donc bon, ça ramène quand même à tout le contexte ouvrier du milieu du 19e siècle, où les ouvriers travaillaient chez eux, hein, et non pas en usine. Vous avez... donc là, bon, deux ferblantiers, hein, avec un atelier.
Qu'est-ce qui est indiqué? Beurre?
Suivi de Bouvier. En fait, le locataire, bon, a changé.
Papavoine, il s'appelle Papavoine.
Voilà, Papavoine. Et puis ça a été un autre qui s'appelait Bouvier, bon, qu'on retrouve ici aussi. Alors, je pense que... 300, Thirion, Bayeux. Alors, bâtiment en aile à gauche du précédent. Donc, ça, c'est. Bon, là, je pense que c'est tout ce qu'on va avoir. Hein. On a une enveloppe qu'on va essayer de. Voilà. Et donc, là, oui, effectivement, quelque chose qui tombe en pièce.
C'était plat à chaque séance. Moi, je partais d'un principe que fallait mieux avoir 140 enfants à 15 francs que 30 enfants à 40 francs.
Aujourd'hui, pour les enfants, deux dessins animés. Le Triomphe de Bavard à 14h et 16h30. Les 12 travaux d'Astérix à 15h15. En version originale, mercredi, jeudi à 22h, Easy Rider. Vendredi à 22h, Woodstock.
Un jour, j'allais chez Disney, enfin, je sais quoi, c'est la Warner Bros, je ne m'en rappelle plus qu'elle c'est comme ça, c'était, ou Metro-Goldwyn-Mayer, enfin, qui distribuait les films. Bon, ils ont refusé de me donner des films de Disney, parce que je ne faisais pas les places assez chères. Ils m'ont dit, non, on ne peut pas vous donner du Walt Disney, parce qu'il faut faire au moins 40 francs la place. Je me suis dit, c'est que vous allez, moi, je ne peux pas faire 40 francs la place à Belleville. C'est pas un cinéma d'exclusivité. Il y avait tout le temps du monde. J'ai joué Pinocchio de Comanchini pendant 2 ans. J'ai joué La Guerre des Boutons pendant presque 3 ans. Toutes les semaines, une semaine, La Guerre des Boutons, La Guerre des Boutons. Même Nathalie Baye, elle a amené sa fille ici voir La Guerre des Boutons. C'était le seul cinéma de Paris qui jouait des films pour les enfants, des films sans violence, comme disaient les gens. Moi, je jouais pas je voulais pas les machins mini, les tortues ninja, tout ça, je voulais pas. Mais j'avais toutes les écoles de Paris, même de la banlieue, là, qui venaient avec des cars pour voir les films.
Qu'est-ce qu'il fait le zèbre là-haut?
Un peu doucement.
Je sais pas. Ben il se gratte. Et il essaye de galoper.
Besoin de moi parce
oui,
que
on a vraiment besoin de
moi. J'ai pas trop envie.
C'est juste faire braire le zèbre.
Le zèbre?
Ah bah non, je peux pas. Bon, vous allez voir.
Je peux pas. Hein? Ah non, je peux pas parce que c'est quand il a vraiment envie. Hein. Je peux pas. C'est pas sur commande comme ça et c'est vraiment quand il.
Et si on le sort là 2 secondes, s'il est isolé, non?
Non, il va paniquer, il va être tout seul, il va se jeter dans les barrières, il va se faire mal. Ouais. Ah non, c'est pas. Faudrait rester là tout le temps. Ou alors faut venir une journée où ils sont sortis. Et. Ouais, qu'ils restent longtemps dehors, mais avec les autres.
Ouais.
Parce que là, si on le met tout seul dehors, il va se faire mal. Hein. Il va foncer dans les barrières, il va paniquer. Hein. Hein, puis là, il est en train de manger de la paille, tout ça. Il m'étonnerait que. Il y a du monde qui connaît pas et il risque de. Déjà là, il est inquiet. Il est reparti au fond. Quand il connaît pas les gens, moi encore ça va, mais quand il connaît pas les gens et c'est pas normal, ça rentre pas dans ses habitudes, il se met à paniquer. C'est assez peur en fait. Dans la savane, il se fait attaquer facilement, tout ça. Il panique facilement en fait, ça a très très peur.
C'est comme les empreintes digitales chez nous.
Ça a été fait à la fabrication pour des questions de chaleur. C'est très 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 difficile, hein. Je vous dis, il y a eu 1 an d'acclimatation avant de commencer le dressage.
Vous avez dit quelque chose là, il vous a répondu. Là, il vous parle, là. Je sais pas ce qu'il vous a dit.
Pour moi, c'est un animal mythique.
Jean-Marc Torres.
La colonne vertébrale des zèbres ne leur permet pas d'être montée. Mm. Et si vous chevauchez un zèbre, vous lui cassez le dos, il meurt. Et je crois que vous vouliez me faire parler de l'indomptabilité de la bestiole. J'ai eu un projet là, récemment qui s'appelait Black Jeanne d'Arc, sur lequel j'avais envie de travailler sur du dressage paradoxal. Passer un certain temps avec des bestioles, que ce soit des humains ou nous sommes tous des animaux, n'est-ce pas? Et notamment, je voulais passer un moment avec Salif Keita et un percheron sublime, une bestiole énorme, qui devait effectivement tous les jours aller manger son cresson, une botte de cresson sur la tête de Salif. Bon. Et c'est vrai que vous obtenez comme ça des relations très simples avec les animaux, à partir de la bouffe, parce que c'est une très bonne base de négociation. Et ça m'intéressait beaucoup, effectivement, de pouvoir avoir ce vécu chamanique avec l'animal, au lieu de le dresser systématiquement, vous voyez, c'est comme l'éducation. Mais qu'est-ce qu'il disait ça l'autre jour? Les garçons, on les dresse, et les filles, on les domestique. C'est une espèce de distance qu'on peut avoir avec cette espèce de nain qu'est l'enfant, ou cette espèce d'étranger qu'est l'animal. C'est tout ce qu'on n'a pas aimé dans l'ancien cirque, dans la relation avec la bestiole. C'est tout ce qui a été changé justement par ce nouveau cirque, qui a un rapport beaucoup plus simple et tendre avec l'animal.
Ce zèbre que l'on voit batifolé sur le mur du cirque, à Belleville, c'est vous qui l'avez amené?
Je l'ai posé de mes petits poings rageurs, le soir de l'ouverture d'ailleurs. J'étais au-dessus de la tête de ces braves gens qui ont risqué leur vie sans le savoir. Avec Sadek, en train de poser ça à 9h-10. Je l'ai fait faire par Avenir Publicité. Tout le monde était très sympa, tout le monde m'a donné des coups de main à l'époque. Je l'ai payé quand même 7 800 francs, si je me souviens bien. C'est une entreprise collective que j'ai menée tout seul.
Votre zèbre, il n'est pas dans n'importe quelle position?
D'abord, il a eu des avatars, parce que normalement, il a été posé, dressé, cabré, pour le soir de la première, mais sauf qu'il était cabré grâce à une... On dit jamais corde dans le monde du spectacle, grâce à un film, n'est-ce pas? Ensuite, il a été posé, là, comme vous le voyez, je crois, sur cette photo, là, il a eu une position intermédiaire, ensuite, il s'est recassé la figure. Donc, il a bougé, ce zèbre.
Mais là, il est plutôt en plein élan.
Oui, là, je ne l'ai pas vu récemment.
Non, mais là, sur la photo que vous-même vous avez prise...
Oui, là, c'est la...
Des lumières de Belleville.
C'est le moment à... Vous notifiez qu'il y avait un aspect africain. Et oui, c'est le Belleville africain des années 80, oui.
Le zèbre, c'est un cheval noir rayé de blanc, mm-hmm. Ou c'est un cheval blanc rayé de noir?
C'est alternatif. Des fois, ça commence par le noir, des fois, ça commence par le blanc. C'est une pensée dialectique aussi, c'est-à-dire, un bon artiste, on peut être totalement subversif et en même temps ne pas penser comme soi. On peut avoir des choix passionnels absolument nets et décisifs, et puis programmer quelque chose qu'on n'aime pas du tout, parce que ça trouvera son public. C'est ça aussi, un des premiers logos, je ne sais pas s'il est là... Donc ça a été quand même assez sympa, parce que je suis allé voir tous mes potes, Caroline Carlson, Nougaro, tout le monde m'a dessiné, je leur ai demandé, dessine-moi un zèbre. Celui-là, regardez, celui qui est sur... oui, c'est Télérama. Donc c'est Jurek Janiszewski qui me l'a fait.
Il est dédoublé, lui.
Oui, c'est un zèbre qui est constitué d'un chien et un chat, qui sont un seul animal, qui sont tous les deux, il y a deux têtes, quoi. Et voilà, c'est un peu ça, le zèbre aussi. Alors bon, je ne dis pas que c'était prophétique, mais c'était nécessaire. Pour la petite histoire, Jurek Janiszewski, c'est le graphiste qui a dessiné quasiment avec son sang le logo de Solidarité, Solidarność. Donc il y a eu un très joli... Tout le monde a compris à l'époque ce que je voulais faire, et tout le monde m'a aidé. Tout le monde est venu faire des concerts de soutien. Alors ça a été quand même des moments inouïs, si vous voulez, quand vous avez M. Jacques Higelin et M. Nougaro, tous les deux, sur la scène du Zeb pendant toute la nuit, qui chantent Les Roses Blanches, qui bercent les mamies, qui servent le thé à la menthe. Enfin, on a vécu des grands moments, c'est vrai.
Parce qu'il est tout petit, le lieu. Il paraît grand de l'extérieur.
Le lieu est minuscule.
Il est minuscule, il est tout petit.
Minuscule, il n'y a pas de coulisses, pas de dégagement, pas de cintre, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une auberge espagnole, c'est ce qui était nécessaire à l'époque. C'est un des seuls endroits de Paris où, si vous aviez vraiment la passion de faire quelque chose, on vous disait oui. Alors, c'est vrai que justement, ça. y avait cette côté quantité, c'est-à-dire que je prenais quiconque arrivait avec le cœur pur et me disait « je veux présenter mon spectacle », c'était « oui ». Bien sûr, on a présenté des trucs qui étaient parfois pas complètement au point, pas complètement énormes.
Et le fronton comme ça, avec l'image du zèbre, qui est-ce qui a l'idée de le dessiner, ce zèbre, sur le fronton blanc ?
Oh ben là, ça c'est une histoire, c'est justement en 85, un jour j'ai vu se présenter un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Torres, qui était un ancien danseur étoile de l'opéra, qui avait donc entendu parler que j'avais ouvert un théâtre, qu'il y avait une salle qui s'était essayé de faire quelque chose. Il est venu se présenter à moi et puis il me dit... si vous voulez, moi, je pourrais vous amener tout Paris, parce que c'était le mari à l'époque, il vivait avec Madonna Bouglione, qui était au théâtre du Ranelagh. vous connaissez certainement. Et alors, ils étaient ensemble. Bon, alors, il me dit, moi, je connais tout Paris, machin, alors bon. Mais, alors, je dis, si vous voulez, moi, je suis ouverte à tous les... Je démarre dans ce nouveau style de travail, qui est le théâtre, le musical, la comédie, je suis pas très, très, très bien versée là-dedans. J'essaye de faire quelque chose. Toutes les idées sont bonnes à prendre. J'ai bien accepté votre collaboration. Mais lui, il me faisait venir tout Paris, c'est vrai, tous les attachés de presse étaient là, mais c'était sans arrêt des cocktails, il fallait toujours faire des cocktails. Financièrement, ça revenait cher. Hein. Mais alors, pour en venir aux zèbres, il me dit, le Berry, c'est pas un nom pour une salle, ça fait ringard. Parce que mon mari, on avait appelé le Berry, parce que mon mari, sa famille est d'origine berrichonne. Donc il avait appelé le Berry, il se trouvait qu'il s'appelait Knox. Que quand la première personne qui ont monté le cinéma avec Monsieur Roland, Monsieur Berg, qui était d'origine israélite, ils ont appelé ça la nuit. Le Nox, je savais pas que ça veut dire la nuit en yiddish. Moi, je veux bien. Hein. Bon, et nous, quand on est arrivé, un peu de temps après, on l'a débaptisé Nox pour l'appeler le Berry. Parce que Nox, parce que moi, quand le fameux Jean-Marc Torres, il est parti de là, il m'a dit, moi, je vais récupérer mon zeb. J'ai dit, vous montez là-haut pour récupérer votre zeb, c'est pas moi qui vais vous le récupérer. Il était complètement là-haut, vous savez, complètement là-haut. Il est jamais venu le récupérer.
Et c'est lui qui est venu hisser là-haut, le zeb?
Oui, avec des grands aisselles, ils ont installé leur zeb là-haut. Ils ont fait une ouverture de la salle, une réouverture de la salle un soir avec tous ceux qui viendraient avec quelque chose de zèbre sur eux, ne paieraient pas l'entrée. Ne serait-ce qu'un foulard avec des rayures, un chapeau avec des rayures. Bon, il est toujours au même endroit, le zèbre. Sauf qu'il a été repeint, là.
Très gâté par la vie, j'étais danseur étoile, j'ai produit mes spectacles assez tôt et je me suis rendu compte que si on n'était pas au format absolu, si on n'avait pas la chance immense d'être choisi par le, par le métier, on n'avait aucune chance de s'exprimer. Donc qu'il fallait s'y prendre tout seul et s'autoproduire. Aussi, quand cette Madame Leproux est venue me chercher en disant « on vous voit beaucoup à la télé », moi j'ai un vieux cinéma qui s'appelle Le Berry, et j'ai fait quelques concerts rock là, et du coup je me retrouve avec 12 plaintes, et même plus le droit d'exercer mon activité de cinéma qui ne marchait plus, puisque je n'ai que des vieux films égyptiens que même le quartier a vu 120 fois, ils ne viennent plus. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je suis allé voir le lieu et je suis tombé immédiatement amoureux de ce lieu qui avait un cachet, un jus incroyable. Et puis voilà.
Et qui s'appelait donc Le Berry.
Qui s'appelait Le Berry.
Donc ça veut dire que ces lettres vertes, il n'y avait que ça sur la devanture. Il y avait que Le Berry, comme ça.
Voilà.
Les lettres vertes. Et vous, c'est vous qui avez l'idée de peindre en bleu, là ?
Oui, j'ai dédié le lieu à Yves Klein. J'étais passionné par son essai sur le théâtre du vide. Et donc Yves Klein m'a tout à fait illuminé à cette époque-là. Et j'étais amoureux de ce bleu Klein. Et tout naturellement, j'ai trouvé que c'était une couleur qui allait tellement bien avec Belleville, ce bleu Klein. J'ai immédiatement donc conçu une espèce d'éthique esthétique pour ce lieu, une programmation. On a fait une photo pour la presse et on s'est retrouvé 80 artistes sémillants, gentils, sympathiques, posés devant le Berry, donc. Et on avait rendez-vous 3 mois après pour l'ouverture. 2 mois après, il y avait quand même des travaux, tout aménagé, bref. Et on avait donc tous officiellement rendez-vous le surlendemain pour commencer les travaux. Il y en a un qui était là, c'est Dick Annegard. C'est Dick qui est venu avec sa petite pelle et son pinceau. Et c'est un des seuls d'ailleurs qui a vraiment donné 2-3 jours de sa vie généreusement à gratouiller l'endroit qui était dans un état de crépitude totale. Donc on a passé 2 mois effectivement à non seulement créer cette programmation, trouver une sono, trouver des éclairages, trouver un équipement. Et le peindre, alors ça a été vraiment zen, parce que je peignais même le dessous des fauteuils, ce qui ne se voit pas. Ça a été fait avec beaucoup d'amour.
Et le quartier, il était là, il venait aux œuvres.
Pour vous dire la vraie vérité, Jacques, justement, qui faisait ses spectacles avec la gratuité pour les habitants du quartier, on avait plus de gens qui traversaient tout Paris que l'épicier du coin, qui lui avait un peu de mal. Bon, quand ils sont venus quand j'ai fait notamment les nuits du Ramadan, qui étaient du rail. Et là, effectivement, le quartier a compris que ça pouvait aussi les intéresser, le genre de spectacle que je faisais.
Donc là, ils étaient là, pour les nuits du Ramadan. Il y avait qui comme musicien ?
Il y a eu Mahamad, qui était donc le musicien de Sappho. Il y a eu Sappho. Il y avait Charles Dean et le Couscous Clan. Il y avait... J'en oublie. Ça a été somptueux. Une de mes fiertés réussites, ça a été que j'ai réussi à faire venir de 18 Sud-Africains de Soweto. Et c'était encore l'apartheid à l'époque. Hein. Ça a été un exploit que j'ai... Grâce à la fondation Daniel Mitterrand qui a fait les billets, on a pu faire venir ces 18 artistes faramineux d'Afrique du Sud qui faisaient un spectacle qui s'appelait Sophia Town, c'était sur les chebines. Les chebines sont tous les espèces de bars clandestins qui ont permis à la vie sociale et culturelle de Soweto d'exister. Enfin, c'était une puissance remarquable. Et là, c'était un peu comme la publicité du café, c'est-à-dire à la même époque, grâce à une association qui s'appelait Atabac, j'avais pu bénéficier de la venue à Paris de 8 mètres de capoeira. Et c'était la première fois vraiment, j'avais eu la chance de connaître ça au Brésil, en voyageant avec Béjart, enfin bref, j'avais passé quelques mois là-bas, et j'étais passionné, et tout d'un coup, je sais que ces types arrivent, et j'ai pu les produire aux Zèbres. On a fait un triomphe, l'association était très virulente, là, ils étaient, je ne sais pas combien, 14, plus 8, enfin bon, c'était énorme, plus les 18 Sud-Africains qui se rencontrent, et là, on a vu se retrouver, ces 8 mètres, c'était des fantastiques acrobates, enfin une pensée pour le hip-hop. Hein. Moi, j'ai vu naître ça dans les années 80, justement, Sydney, machin, tout ça. Ça s'appelait le Smurf. Personne, à l'époque, n'avait, semble-t-il, remarqué à quel point ça venait de la capoeira, du Brésil, cette danse, ce mix, cette fusion. Et on a vu se rencontrer comme ça ces Sud-Africains et ces Brésiliens qui se sont mis à chanter Ça a été un des moments vraiment les plus formidables qu'on ait vécu. On a une petite fierté quand même d'avoir réussi à faire bouger un tout petit peu la planète. Qui était assez. Je crois que les choses ont changé, sans nostalgie. Et c'était une période où on pouvait effectivement être accueilli par le quartier à bras ouverts, c'est-à-dire que le théâtre n'était jamais fermé. On avait du matériel, il n'y a jamais un micro, rien qui a disparu. Enfin, on était... Quand j'ai monté ce labyrinthe qui consistait à aller acheter 500, 800 mètres de toile chez Dreyfus, j'étais jeune, riche et célèbre. Et donc, j'achetais cette toile que je tendais entre les poteaux, vous voyez, du marché maraîcher, je gardais les poteaux. Et ensuite, ça créait un labyrinthe, donc, avec des quinconces. Chaque peintre pouvait avoir un petit espace individuel. Et donc, ils étaient conviés par voie de presse, et tout le monde répliquait à 5h du soir, et à 9h, on avait le boulevard de Belleville, qui était une espèce de panorama, comme ça, de peinture fraîche. Il y a des gens comme Basquiat qui venaient faire les perfs avec nous. Et les bonnes gens de Paris repartaient avec une toile fraîche de Basquiat sous le bras. C'était quand même assez beau et sympathique. Et donc, à l'époque, il y avait ces hordes de marmailles, de moineaux qui venaient, dès le début de la manifestation, me voler toutes mes bombes, me faucher les pots de peinture. Enfin, on risquait tout, si vous voulez. Et bon, ils faisaient toutes les conneries possibles. Ils allumaient le feu, ils faisaient sauter les bombes, mais dans un coin. Ils n'ont jamais bombé une Mercedes, jamais fait subir de déprédation à aucun des habitants du quartier. Enfin, ça s'est passé d'une manière exemplaire et miraculeuse. Quand Higelin venait donner des concerts de soutien, il avait une seule exigence, c'était gratuit pour les habitants du quartier et payant pour les journalistes, ce qui leur faisait un immense plaisir à l'époque. Mais comment ? Si, monsieur Higelin a décidé que vous alliez donner 100 francs.
Voilà que le bleu du fronton commençait à pâlir. La couleur se diluait. Derrière la couleur, on s'attendait à voir apparaître la pierre nue ou la brique. Ni pierre ni brique. Tout fut emporté. Plus de fronton. Un carré de ciel nuageux à sa place. Le haut du cinéma avait tout bonnement disparu. Effacé. Un bâtiment qu'on effaçait. Sans plus de difficulté qu'un dessin à la craie sur un tableau de classe. Comme un bateau qui coulerait par le haut, songea Jérémie. Englouti par le ciel, gobé par le néant, un naufrage à l'envers. Le zèbre sombrait corps et biens. D'ailleurs, avec ses petits balcons latéraux aux arrondis de tourelles et ses échelles de fer qui semblaient grimper à une passerelle de commandement, le zèbre avait toujours ressemblé à un vieux cuirassé désarmé de la guerre de 14, plutôt à la canonnière du Yangtze, avait objecté Clément Graine d'huissier, celle de Steve McQueen, tu vois, dans les films de Wise. C'est la première fois que je le vois vraiment, se dit encore Jérémie, et sans avoir la force de se retourner, il songea à l'immeuble de 6 sous, le porte-avions, amarré de l'autre côté du boulevard, juste en face. Le vide rongeait les affiches collées sur la façade du zèbre à présent. Le vide éteignait les affiches une à une et dissolvait les murs. Le vide rampait silencieusement le long du trottoir, effaçant chaque pierre. Et il ne resta bientôt plus qu'une grille de fer noir dressée au pied de la façade disparue. cette grille de fer noir, seul, cadenassé sur le néant.
T'as envie de dire quelque chose ?
Non ? Ben si, ça c'est l'esprit zèbre. Vous êtes ravissante avec un micro, des écouteurs. Merci. Et c'est difficile de faire comme si vous n'étiez pas là. Vous disiez que vous reconnaissiez le zèbre. Alors moi, vous savez, je suis fou de bonheur parce qu'a priori, c'était comme une certaine faillite amicale, financière, bref, un échec ce zèbre quand je l'ai quitté. J'avais quand même pris une baffe, quoi. C'était triste. Et puis je vois, tout d'un coup, quand il a été en vente, c'est là que j'ai appris par le cabinet qu'il mettait en vente que c'était devenu un objet immobilier du patrimoine national, qui c'était intouchable, qu'on ne pouvait pas en faire un supermarché. Et voilà, grâce à Daniel Pénac, il fait partie du mobilier urbain, ce zèbre. Je suis très 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 fier.
Comment ça se termine, votre histoire ? Parce qu'elle a une fin, elle dure 18 mois, de 1987 à 1988.
L'histoire pour moi, elle s'est un peu mal terminée, hein, en trahison d'un pote qui n'avait pas besoin de le faire, quoi. Et donc c'est vrai que j'étais fatigué, c'est vrai que j'avais perdu beaucoup de sous dans cette aventure. J'avais fonctionné avec une constance, c'est-à-dire que quiconque travaillait là-bas avait 100 francs. Voilà. Alors on avait très souvent 27 francs dans la caisse, et j'avais une équipe de 7-8 personnes. Voilà. Et c'est vrai que je me suis épuisé quand même assez vite. J'ai donné l'esprit à tout ça, et j'étais trahi par un chanteur connu, qui n'est pas Jacques Higelin, qui venait de s'acheter une baraque de 600 mètres carrés, et qui, pour une sordide raison de fric, a aidé Madame Leproux à casser le semblant de contrat que j'avais avec elle. Comme j'étais effectivement ruiné, fatigué, malade, j'ai une appendicite, une péritonite, bref. Et donc ce cher ami m'a planté un poignard énorme en s'associant à l'époque justement avec Madame Leproux. Non, j'ai aucune rancœur, hein, sachez-le bien, mais peut-être qu'on peut dire la vérité quand même. Je me suis rarement battu sinon pour défendre les vieilles dames. Voilà. Je me suis levé. J'étais chez moi tranquille. Je me suis levé ce soir-là, habillé à 21h30. Je me suis retrouvé à 22h dans cette salle que j'avais créée. Et ils ont salué pour le soir de leur dernière, devant tout leur public, chéri et adoré. Je suis monté sur scène et j'ai mis un grand pain à monsieur, ce qui m'a fait une réputation épouvantable, sulfureuse, d'un très vilain garçon. Voilà la vérité sur le zèbre, c'est une trahison ignoble. D'ailleurs, il a planté mamie après, il n'a pas...
En fait, c'était un peu vous le drôle de zèbre, non ?
Bah, il y a un peu de projection narcissique, sans doute. Ouais.
Non, nous, on est... pas que le berry meurt. Donc, sinon, nous, les compagnies, on crève.
Les gens peuvent venir à
18h30 chanter devant le mairie, tant que c'est... Ouais, bah oui, y a pas de problème, ça se fait, mais... Vous, qu'il y ait...
Ce qu'il veut, c'est attendre qu'on ne s'occupe plus de cet endroit, et puis quand ça sera bien en ruine, quand tout le monde aura oublié le verrier, je donne pas 2 ans pour qu'on l'oublie, à ce moment-là, on viendra raser, puis regarder les immeubles blancs en face.
Si on ferme cette salle, si elle se démolit, c'est fini, il n'y a plus rien encore. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un collector, cette salle. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. C'est rare, ça n'existe plus, une salle comme ça. Ça n'existe plus, une salle de cinéma avec des salles avec des concerts dedans. Ça...
Mais non, on ne peut plus passer maintenant, ils ont muré, là. Il y avait une petite porte,
il n'y a pas une porte derrière.
Eh non, maintenant, ils l'ont muré, l'autre derrière, elles ont attaché des chaînes.
Daniel Pénac, au micro de Pierre Bouteiller, le 16 juillet 1997.
Il y a un cinéma qui tient une place importante dans votre vie,
gardant votre quartier de Belleville. Et vous avez combattu,
oui, c'est le BRI,
sans grand succès,
le Zèbre,
contre la fermeture d'un cinéma de quartier.
J'ai combattu en écrivant, mais avec beaucoup moins de mérite que les associations qui s'en sont réellement occupées, qui l'ont occupé d'ailleurs. C'est un vrai scandale, une fois de plus. C'est, je vous dis, l'urbanisme criminogène. On a fermé ce cinéma, qui était essentiellement visité par des gosses, parce que la propriote du cinéma faisait des spectacles pour les enfants. Vous fermez ce dernier cinéma de Belleville. Fermer un cinéma, c'est provoquer la disparition de 50 autoradios. C'est ça. Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'à chaque fois que des salopards cultivés, réfléchis, font des opérations d'urbanisme distingué sur les villes, dont les conséquences sont la disparition d'un lieu culturel, etc., que ces mêmes salopards ne viennent pas ensuite se plaindre de l'extension, de la délinquance. Parce que les mômes qui étaient là, et qui était ravi d'être là, déjà au moins il n'était pas dehors, ce qui était déjà pas mal, et en plus de ça, il voyait de fort jolies choses, de fort beaux films, et ceci. Alors non seulement ce cinéma est en vente, bon ça c'est le propriétaire à tous les droits, ça lui appartient,
c'est la loi du marché,
c'est déficitaire, bon il le vend, etc. Mais lorsqu'on a envoyé les huissiers pour saisir, ils ont tout cassé à l'intérieur. Il y a des équipes de types qui sont venus qui ont tout cassé.
Avec les huissiers ?
Oui, avec. Alors, je ne sais pas.
L'aspect du travail d'huissier que nous ignorions, mais c'est intéressant.
Je ne pense pas que ce soit officiellement des huissiers. En tout cas, il y a des gens qui sont venus qui ont tout cassé de façon que la salle ne soit pas utilisable, ce qui est proprement encore pire, quoi.
Alors, qu'en est-il maintenant ?
Alors, je vois qu'il y a une banderole dessus qui est toujours à vendre. Il est à vendre. Je crois que Martin Karmitz avait essayé de voir s'il pouvait l'acheter, mais ça c'est sous toute réserve, je suis pas bien informé.
On peut faire quelque chose, faire une association, récolter des fonds et faire une programmation.
Il faudrait faire une association, une programmation, sachant qu'effectivement, si on fait un cinéma là, ce sera le seul cinéma du quartier. Les premiers cinémas sont à au moins un kilomètre à pied. Hein,
oui, il n'y a plus d'écran dans le 20e, je crois.
Il n'y a plus.
Bon, vous voulez savoir, quand j'ai connu Monsieur Pénard, mais M. Pénac, je ne l'ai pas connu à l'époque où j'étais en tant que cinéma. C'est-à-dire que le propriétaire des murs de l'immeuble, du Berry, il m'a refusé de renouveler le bail. Il a voulu... il faut prendre les affaires depuis le début. Quand on a acheté le cinéma, on était locataire des murs. Parce que cette salle de cinéma, elle a été construite avec mon mari, enfin, des associés, et sur un terrain d'autrui, le terrain de M. Lescure.
Et un
terrain d'autrui, ce qu'on appelle terrain d'autrui, c'est-à-dire que le propriétaire était, c'était pas la société qui construisait le cinéma, qui était le propriétaire du terrain. C'était Monsieur Lescure, qui s'est associé avec Monsieur Berck et Monsieur Roland et mon mari après, pour construire la salle de cinéma. Vous savez qu'au bout de 30 ans, Monsieur Lescure, qui était au début propriétaire que du terrain, est devenu propriétaire des murs. Ça se passe comme ça. Sur le terrain d'autrui, au bout de 30 ans, le propriétaire du terrain, le propriétaire des murs. Donc au bout de 30 ans, il a donc changé le type du bail, il est devenu propriétaire de la salle du cinéma. Et en 85, il a refusé de renouveler le bail. Bon, alors, c'est pas lui qui a refusé, puisque lui, malheureusement, il était décédé, mais c'est son fils qui a refusé de renouveler le bail, parce qu'on lui a fait encore pareil des propositions mirobolantes du style pour faire un supermarché, enfin, ou un McDo, ou je sais pas quoi, enfin bon, peu importe. On lui a fait beaucoup d'argent, alors il s'est dit, je vais les foutre à la porte. Mais moi, j'étais pas disposé à partir, parce que d'abord, on n'était pas encore à l'âge de la retraite, et puis on était en train d'essayer de remonter la salle. On avait eu pas mal de problèmes pendant quelques années avant, pendant 3-4 ans. Donc on se trouvait une situation financière assez critique. C'était pas le moment on commençait à refaire surface. C'était pas le moment d'abandonner les lieux. C'est normal. Hein. On s'était donné du mal pendant 4 ou 5 ans à tirer la langue. Et là, ça commençait à réagir. Alors on dit, c'est bon, maintenant on est reparti. Au moins qu'on arrive à s'en sortir, c'est vrai. Alors on a donc voulu garder la salle. On a fait un procès qui a duré extrêmement longtemps. Et comme le cinéma était très populaire, qu'on était la seule salle du quartier, puis qu'on faisait des spectacles pour les jeunes, pour les enfants du quartier, pour la ville de Paris, enfin tout un tas de choses, il y a eu des manifestations, il y a eu 25 000 signatures, des pétitions partout.
Vous savez que M. Lescure, il ne pouvait plus nous mettre à la porte, si vous voulez. Et il avait obtenu une autorisation, enfin, il avait obtenu de la justice qu'on soit expulsé, mais la justice ne voulait pas s'en mêler. Le commissaire de police ne voulait pas se déranger, personne ne voulait se déranger, donc il y avait une espèce de statu quo.
Vous voulez dire que la justice, le commissaire de police, tout le monde était avec vous.
Voilà, oui. Ils ne voulaient pas s'en mêler parce que, dans le fond, ça les arrangeait que cette salle existe, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, c'était un lieu pour les jeunes s'amuser. Donc finalement, comme il ne s'y passait jamais rien de mal, c'était très bien fréquenté. Alors il trouvait que c'était très bien qu'elle existe, vous voyez. Mais monsieur est sûr qu'il n'entendait pas de cette oreille. Un jour, quand on a fermé la salle à minuit, en pleine nuit, il est venu des déménageurs et il a tout cassé l'intérieur.
Rencontrer Daniel Pénac, il vous raconte, lui, qui venait enfant ici voir les films de cow-boy.
Ben, il me dit qu'il venait au cinéma et que son père l'amenait au cinéma, au Berry. Bon, mais il m'a pas dit ce qu'il venait voir, mais enfin, il m'a dit, quand j'étais enfant, d'après l'âge qu'il a, M. Pénac, moi je crois qu'il a à peu près 55 ans, quelque chose comme ça, il est l'âge de mes fils à peu près, quoi. Hein, mon fils a 51 ans, donc lui il doit avoir 54, 55 ans, je suppose, quelque chose comme ça. Donc j'ai pensé qu'il venait, comme mes fils venaient ici voir les films de cow-boy, les films de péplum, ben, c'est la même chose, quoi. Je pense que c'est ça qu'il venait voir. Ou alors, je pense pas qu'il venait voir, parce qu'on a joué, parallèlement, on faisait une séance film de cow-boy et une séance film égyptien, comme il y avait beaucoup de nord-africains dans le quartier. Alors on jouait des films arabes ou des films indiens. Films libanais, les films turcs, enfin les films orientaux. Alors on faisait une séance, des fois on faisait deux films à la même séance. Nous on était généreux, pour le même prix, ceux qui voulaient pouvaient prendre les deux films. Ceux qui voulaient pas, ils n'en voyaient qu'un. Ceux qui voulaient, ils avaient le droit à avoir les deux films. On faisait permanent, de 14h à minuit. Alors ça fait que les gens ils pouvaient rester aux deux séances si vous voulez, quoi. On ne va pas s'amuser à faire. Comme ça, il y avait ceux qui voulaient voir les films français, ben, ils venaient, enfin parlant français, ben, ils venaient voir les films de cow-boy, de péplum. Puis ceux qui, les Arabes, eux, ils aiment aussi ces films-là, donc ça tombait bien. Puis après, ils restaient pour voir le film arabe. Puis il y a des gens qui restaient par curiosité, puis finalement, il y en a qui revenaient parce qu'ils trouvaient ça sympathique.
Depuis qu'il avait cessé de vivre, Sissou dormait dans un fauteuil, assis bien droit, face à un zèbre bondissant. Sissou avait loué un studio dans l'immeuble le moins regardable du boulevard de Belleville. Flambant neuf, l'immeuble ressemblait à un jouet de plastique métallisé, avec à sa proue une tourelle de porte-avions qui devait faire l'enfantine fierté de son architecte. Après quelques mois de navigation, la rouille s'était mise à ses flancs. Le porte-avions semblait échouer contre le trottoir comme dans un port d'où la mer se serait retirée. Sissou habita l'immeuble pour ne pas avoir à le regarder. De sa fenêtre, il voyait bondir un zèbre. Sa deuxième vie s'accrocha à l'encolure de ce zèbre. S'il n'était pas mort une première fois, Sissou aurait volontiers entrepris la conquête de Suzanne, l'écuyère du bel animal, mais quelle consolation un fantôme peut-il offrir à une femme dont le zèbre est condamné? Il s'était abstenu. Il avait aimé Suzanne de loin, en silence. Suzanne, que Jérémy Malocène avait baptisée Suzanne aux yeux bleus. Le fait est que l'Irlande se serait reconnue dans ses yeux.
C'est surtout, en fait, je pense, la vie sociale qu'il y a derrière ce cinéma qui est très importante. C'est quand même des lieux qui faisaient, enfin, par leur démultiplication au sein du quartier, qui faisaient vivre l'ensemble des secteurs dans lesquels ils étaient implantés. Et c'est en cela que, bon, chaque disparition est un coup porté à la vie sociale qui pouvait animer ces quartiers dits populaires.
Et alors, qu'est-ce qui fait que l'immeuble de Frédéric Borel, qui est décrit comme un porte-avions, lui, il ne peut pas être porteur de cette vie sociale?
Mais il y a déjà les mutations aussi au niveau de l'occupation qui l'engendrent. Bon, vous avez la Sissou qui a la chance de pouvoir habiter à nouveau, mais en général, c'est pas ce qui s'était passé. Enfin, dès lors qu'il y avait des démolitions, les gens étaient rejetés un petit peu plus loin en banlieue, ou alors complètement marginalisés. Ce n'étaient pas les mêmes occupants qui réoccupaient les lieux par la suite de nouvelles constructions. Donc c'est un petit peu pour ça que c'est... je pense que c'est dommage qu'on ait ce genre d'attitude. Puis qui sont finalement... c'est pas respectueuse de l'environnement, mais c'est... qu'un architecte fasse une œuvre alors qu'on est dans un tissu urbain construit, on n'a pas le contexte. Normalement, on doit s'effacer derrière un certain environnement.
Il y va fort, Daniel Pénac, avec les architectes.
Oui, qui qualifie de...
Alors, vous qui êtes architecte, vous pouvez me lire ça.
Si sous la neige était un fantôme de la place des fêtes, pas même un rescapé, un fantôme. Pendant plus de 30 ans, il avait été le bougnat, bistrot, charbonnier, quincaillier, serrurier, d'un petit village rond, perché sur les toits de Paris. Puis, les criminels de paix s'étaient abattus sur la place des fêtes. Ce qu'ils avaient fait à ce village, les uniformes le faisaient un peu partout dans le monde. Bombardement ou préemption, mitrailleuse ou marteau-piqueur, le résultat est le même. Exode, suicide, criminel de paix, Sissou ne les nommait jamais autrement. Criminel de paix, réducteur de nid, fauteur d'exil, pourvoyeur du crime. Sissou, qui ne s'associait jamais au grand débat public, professait intérieurement que la seule prévention efficace contre la criminalité des banlieues passait par l'exécution capitale d'un architecte sur deux, de deux promoteurs sur trois, et d'autant de maires et de conseillers généraux qu'il faudrait pour les amener à comprendre le bien fondé de cette politique.
Le 31 mars 1994, j'ai fermé à minuit la salle, et le 1er avril, quand je suis arrivé le mercredi 1er avril, pour ouvrir la salle, les enfants étaient devant le cinéma, c'était cadenassé, il y avait des carreaux de plâtre, ils avaient tout cassé, arraché tous les fils, cassé les films, enfin cassé tout à l'intérieur. Donc là, j'étais vraiment mise à la porte. Alors là, il y a eu une très grosse manifestation, alors avec Jacques Higelin, avec tout un tas de gens célèbres, avec des manifestations sur le terre-plein, sur le boulevard, et des tas de choses. Et il y a eu des associations en tout genre qui sont installées dans la salle. Ils ont cassé, c'est même le professeur et diététicien très connu, là, Albert... Oh, son nom, il n'y a rien à dire. C'est un grand professeur qui a dit, moi, je vais donner le premier coup de pioche parce que moi, on n'osera pas me mettre en prison. C'est lui qui a donné le premier coup de pioche. Et après, tous les jeunes sont rentrés dans la salle. Et alors là, évidemment, il y a eu les associations qui sont rentrées, le MRAP, SOS Racisme, je ne sais pas comment, tout un tas d'associations. Alors moi, après, finalement, j'étais plus du tout chez moi. Mais alors, ils ont fait le forcing et ils ont ouvert la salle. Mais bon, il n'y avait plus rien. Il y avait les fauteuils corsés, la cabine ne marchait plus, la lumière ne marchait plus. Enfin, ils ont fait marcher ça comme ça. Ils faisaient des petites fêtes, des tas de trucs là-dedans. Au bout d'un an, ils ont été obligés de... Là, ils ont été virés par la loi.
Toutes les nuits qu'Allah faisait, Sissou pillait les biens du juste. Et lui qu'on accueillait avec des crachats dès que le soleil se levait, c'était la main sur le cœur quand on lui ouvrait les portes de la nuit. « Salam alaikum, mon frère Sissou. » À quoi Sissou répondait sans fioriture, « Alaikum salam. Idriss a emballé la vaisselle ?» Et graines d'huissier redescendaient chancelant sous les piles de tagines. Les étages ressemblaient aux étages. Graines d'huissier y gagnaient des mollets de danseuses, quelques mots d'arabe et une placidité de dromadaire. « Il n'est pas épais, ton petit Sissou, mais il est fort. Il ne dort jamais ?» Clément vivait un rêve qui le tenait éveillé. Descendre des frigos neufs dans le camion de Sissou et remonter avec des carcasses de frigos décédés, échanger une literie à quatre pattes contre des plumards boiteux, remplacer une vaisselle pimpante par une porcelaine ébréchée, la philosophie du commerce portée à sa perfection. Tout bénef. Au petit matin, on entreposait les biens de Belleville dans les coulisses du zèbre.
Moi, je voulais bien partir en 91, je l'ai dit, je vais fermer. Ah non, non, tu vas pas fermer, t'inquiète pas, tu restes là, nous, on s'en occupe, on va faire bouger tellement de monde que tu pourras jamais fermer, ils pourront jamais te fermer, ils oseront jamais te fermer. En fait, c'est vrai, hein, jusqu'en 94, ils ont pas osé. Bon, et alors, j'ai donc perdu tous mes droits. Et lui, après, propriétaire, il m'attaquait en me demandant des dommages et intérêts pour l'avoir empêché de vendre sa salle. Alors là, j'avais demandé aux associations de laisser tomber. Ils ont dit non, non, la salle est à nous. C'était eux qui étaient propriétaires de la salle. Finalement, j'ai été expulsé de tous les côtés.
Bravo, bravo à vous les clowns. Vous pouvez tous repartir une dernière fois dans les gradins rouges. Vous pouvez tous repartir à votre place. Bravo les petits clowns. Une dernière fois dans les gradins rouges du cirque. On retrouvera le clown Frotti cet après-midi avec un autre clown. Vous le verrez tout au long du spectacle. Eh bien, je vais vous représenter les artistes avec qui vous avez fait du cirque ce matin.
Une journée au cirque à Villeneuve-la-Garenne avec Francis Scheller.
Je vous demandais de bien les applaudir un par un. Il y avait Aliana et Sonia, John, Doyan, Frotti le clown.
Mais vous le gardez pour le plaisir, il ne fait pas de numéro.
Si, si, il travaille, tous les animaux qui sont ici, ils travaillent. Et voilà, il y a un numéro collectif avec les chameaux, avec les lamas, le guanaco, le tour de piste. Voilà, ils font différentes figures très simples, et puis le principal c'est de les montrer, c'est ce que veulent les gens. Quoi. Vous savez? Viens, ah ouais, mais il a... viens. Savé, comme.
Il a mangé.
La paille, ouais, ça les occupe, voilà, les mastiques. Et puis, quand il y avait les deux, ils avaient un petit numéro à deux, ils montaient sur des tabourets et voilà. Et après, comme il y a eu la disparition malencontreuse de sa jeune épouse. C'était très difficile déjà de le faire réintégrer dans le numéro collectif. Voilà. Les rayures, une personne m'a dit que c'était parce que ça faisait un équilibre de température entre le noir et le blanc, et comme c'est dans des régions où il y a des chaleurs impossibles, ça régularisait leur température. D'autres personnes m'ont dit c'est de la pure blague. Je sais pas, alors il faudrait voir à Maison Alfort peut-être.
Donc si je vous écoute, encore. C'est comme si le noir et le blanc, comme ça dans la savane.
Oui, il y avait une réaction épidermique, voilà.
Et ça explique pas que chaque zèbre il ait des zébrures différentes.
Ah non, mais ça c'est vous qui le disiez tout à l'heure, hein, ça correspond aux empreintes digitales, ça c'est sûr. Hein. Et même si on refait une deuxième voiture comme ça en zèbre, elle sera certainement différente. Bon, on va aller là. Téléphone, alors on va aller là.
C'est là où vous habitez?
Voilà.
Dans la roulotte?
Oui.
Non, pas une roulotte, une caravane. C'est...
Oui, roulotte si vous voulez, oui. Asseyez-vous.
Donc en fait, vous habitez pas aux zèbres de Belleville, vous habitez ici?
Non, on habite ici, là, vous savez, le cirque, c'est... Et les chapiteaux, c'est un petit peu comme un bateau, hein. c'est très sensible, hein. C'est très sensible, très vulnérable au vent, aux tempêtes, à fortiori, puisqu'il y en a une catastrophique en décembre 99, hein, où tout a été fichu. Ouais,
mais t'as vu,
c'était...
Mamoun,
c'est bien comme ça.
je prends le texte parce que j'ai pas de mémoire. Vous allez vous en apercevoir au cours de cet après-midi. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enfants, bienvenue aux Zèbres de Belleville.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec le Zèbre de Belleville?
Je suis passé devant en voiture, et quand j'ai vu la façade, cette façade rétro, si vous voulez, moi qui correspond un peu à ma jeunesse, hein, au point de vue style, ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours été intéressé par un peu les antiquités, brocantes et tous ces trucs-là. C'est un style qui m'intéresse aussi, 1930-1940. Et donc, il y avait un panneau à vendre, et puis voilà, donc tout a commencé comme ça, et les tractations laborieuses, longues, puisque ça a duré 3 ans, m'ont amené un jour finalement à pouvoir acheter les murs. Voilà, donc j'ai tout vendu. J'ai tout vendu pour en faire l'acquisition. Hein. J'avais des collections ici de boîtes à musique, des choses comme ça. Tout ça, j'ai tout vendu. J'avais un studio dans Paris. Enfin, j'ai tout. Voilà. Il y avait beaucoup de concurrents dans des domaines économiques beaucoup plus terre à terre, hein, comme Midas, qui, vous voyez, que la grande hauteur lui permettait de monter les voitures et puis de réparer les pots d'échappement. Il y avait des genres de McDonald's, il y avait des supermarchés comme Aide ou des machins comme ça. Enfin, c'était sur la corde raide. Et donc, après, on a fait... Comme par hasard, je suis tombé sur un lieu mythique et je ne le savais pas. Ouais, et je ne le savais pas. C'est ce qui est rigolo. Vous voulez un bonbon, non? Et je ne le savais pas. Et donc, j'ai été aidé pour les travaux par la mairie de Paris, le conseil général, le ministère de la Culture. Et comment tu t'appelles? On avait commencé avec le spectacle Cirque Cruel.
Ça n'a pas trop marché, non?
Si, ça a marché, mais ça a marché. C'est-à-dire que c'était très lourd. Hein. C'était très lourd financièrement, c'était très lourd. Ça n'aurait pu continuer qu'avec des aides. C'est le problème des petits lieux. Oui. C'est que il faudrait qu'il y ait 3 artistes et pas plus. Voilà. Alors, moi, j'avais vu un petit peu, peut-être un petit peu trop grand, c'était les débuts, et on s'est trouvé avec, c'est surtout ça, c'est qu'on s'est trouvé avec une conjonction de fin de travaux catastrophique, qui s'est terminée avec qui n'est pas terminée, hein, avec avocat, tribunal, architecte expert nommé par les tribunaux, enfin, malheureusement, il y a des procédures en cours, et le spectacle qu'il fallait faire à l'arraché parce que ça rentrait dans le cadre de 1, 2, 3 cirques qui était l'opération lancée par le ministère de la Culture, donc il y avait des dates butoirs, donc on a perdu... Les travaux ont été retardés de 2 mois, donc il y a eu des mois de répétition supplémentaires qui ont été stériles, mais très onéreuses. Et puis ensuite, après, ça a décalé tout le calendrier. Et il y avait des artistes qui avaient pris des engagements ailleurs, et voilà. Moi, si vous voulez, je suis obsédé par le cirque. Alors, le chanteur, les variétés, la chanson française, les petits ensembles musicaux, j'aime bien, hein, mais c'est pas mon profond intérêt. Hein. Puis moi, j'aime les numéros de cirque, j'aime les numéros visuels, les acrobates, que j'après l'appellerai la vérité. Quoi.
J'ai entendu dire que vous appartenez pas à ces vieilles familles de cirque. Et on a toujours l'idée que les gens du cirque ils se rattachent comme ça des familles anciennes. Est-ce qu'il y a un mot comme ça, un terme?
Oui, tous les gens qui font du cirque et qui ne sont pas issus du cirque sont des paysans. Hein, voilà. Donc moi je suis un paysan et tous les gens de cirque qui m'ont fait beaucoup de misère pendant 10 années, hein, parce que Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'école de cirque. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'artistes de théâtre ou d'artistes de variété ou de danseurs qui faisaient du cirque. C'était vraiment que des familles. Hein. Peut-être une trentaine de familles en France ou 25. Familles à ramifications, bien sûr. Comme Bouglione, Zavata, Pader, tout ça. C'est... Et moi, j'ai eu un mal fou à me faire accepter. J'ai mis 10 ans. Avant qu'ils aient reconnu, ils ont dit, tiens, des types de l'extérieur, quand même, ils font des trucs qui sont quand même pas mal. Et puis voilà, après, je suis entré dans la famille.
Et en plus, vous y rentrez de façon aujourd'hui un peu traditionnelle même, puisque d'une certaine façon, il y a tout un autre cirque est né avec les...
Oui, moi j'ai toujours été traditionnel, hein. D'abord, compte tenu de mon âge, compte tenu de ce que j'ai connu, compte tenu de ce qui m'intéresse. Voilà, le nouveau cirque, c'est vraiment des gens qui ont une formation culturelle beaucoup plus étendue, qui sont venus de formation théâtrale, chorégraphique... assez intello, ce qui n'est pas du tout mon cas, et donc ils ont apporté beaucoup pour le cirque aussi, hein, d'une autre manière. À mon sens, il y a quand même des excès, des spectacles complètement incompréhensibles. Hein.
Bon zèbre, regarde, nous sommes ici aux zèbres. Est-ce que tu veux un petit zèbre? D'accord? Dis-moi vraiment. Hein. Ferme les yeux.
Ah, ça va être un beau zèbre.
Je vais voir.
Un zèbre. D'accord, ça marche. Peut-être. Ferme les yeux.
Un zèbre et un clown.
Mais Francis Chevert, vous êtes clown. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est quand vous renouez avec la tradition du cirque traditionnel, aux Zèbres de Belleville, que le public du quartier se rattache aussi au lieu. Le dernier spectacle auquel j'ai assisté, il y avait des enfants du quartier. Et ce qui est drôle, oui, c'est que c'était un quartier où il y avait un cirque avant, il y a très longtemps.
Il y avait un cirque, il y avait un rue du Faubourg du Temple. Rue du Faubourg du Temple. Il y avait en bas, dans le bas. Pratiquement, oui.
C'était qui? C'était quel?
C'était Asselet, Franconi ou je ne sais trop qui avait fait ça. C'était rue du Faubourg du Temple, mais dans le bas. Maman. Pratiquement avant d'arriver à la République. En partie haute, non.
Asselet, c'est celui qui a inventé le cirque.
Oui. Mais il y a eu plein de théâtres. Hein, le théâtre du Tambour Royal, il y a des théâtres là. Le théâtre du Tambour Royal, il existe toujours, mais il y avait beaucoup de salles de spectacle. Et puis bon, après, il y a eu beaucoup de cinéma aussi. Hein.
Vous savez que le film, il est né quasiment dans le cirque. Les premières projections, elles avaient lieu dans les cafés. Et en fait, après, c'est au milieu des fauves, dans les ménageries, qu'on
a rencontré. Oui, dans les ménageries foraines. C'est là, le cinématographe a commencé là. Voilà, absolument.
Alors, je me suis dit, peut-être que Francis Scholler, il va recommencer comme dans les débuts. C'est possible, ça?
C'est possible. On devait faire Ciné-Zèbre le lundi ou le mardi. Mais là, on ne peut pas tout faire d'un coup, et puis c'est des problèmes d'argent. Hein. Je pense que le ZEB de Belleville va très bien s'intégrer tout doucement dans le quartier. Je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression, comme ça on ne va pas compter, mais qu'il y a plus de la moitié des personnes qui viennent donc du quartier. Je crois que si on peut perdurer cette activité artistique, il y aura beaucoup de gens qui vont venir le mercredi et le dimanche, qui vont se pointer et ils viendront là comme ils vont au cinéma. Si on arrive à tenir le coup, si c'est répétitif, ils diront tiens, on va aux Zèbres. On sait qu'il y a le spectacle de cirque, on y va, on ne téléphone même pas, on y va, on va voir la séance.
On reviendra la prochaine fois. Au revoir, le zèbre. On reviendra. Oui. Oh oh. Parlez-moi du zèbre.
quand ça sera fini.
L'aventure extraordinaire d'un cinéma, le Nox, le Berry, le Berry Zèbre, une émission de Christine Delorme. Avec Christiane Leproux, Daniel Pénac, Francis Scheller, Amina Selali, Jean-Marc Torres. Les extraits de Monsieur Malocène de Daniel Pénac sont lus par Thierry Gibault. Un grand merci à Jacques Lemaître de l'association Les Zèbres de Belleville et à Madame Corcuff, conservatrice aux archives de Paris.
C'était sympa, hein, c'était super.
Recherche Archivina, Christelle Rousseau. Coordination Sophie Elie. Prise de son Florence Lombolet, Pierre Monteil. Mixage Jean-Louis Deloncle. Réalisation Anna Smuc.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 juin 2003.